Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. 800 personnes réunies ce matin à Marignane pour soutenir la famille de la 85e femme tuée par son conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Précision de Sarah Ders. Des heures sur l'esplanade des mosquées en début de matinée. Nous serons en ligne de Jérusalem dans un instant. Nous sommes encore là, scandent les manifestants de nouveau dans la rue à Hong Kong. Également au sommaire, le commentaire de l'historien Thomas Snegaroff après le suicide du financier Jeffrey Epstein. Les États-Unis renouent avec ses vieux démons et Donald Trump de souffler sur des braises complotistes histoire de faire peuple. Enfin, les enjeux des élections présidentielles au Guatemala. L'urgence d'agir et les derniers relevés statistiques invitent à marteler l'alerte sans cesse renouvelée par les militantes féministes et des collectifs impliqués dans la lutte contre les féminicides. Une marche blanche a eu lieu ce matin à Marignane. Hommage a été rendu à une jeune femme de 29 ans, tuée par son ex-compagnon. C'est la 85e victime depuis le début de l'année. Sarah Ders.
C'est environ une femme tuée tous les deux jours, selon un recensement du collectif Féminicide par compagnon ou ex. Pour Annick Carsanti, présidente de l'association Femmes Solidaires, ce 85e féminicide, c'est beaucoup trop, dénonce-t-elle au micro de Romain Sost.
Même deux, c'est trop. Ben bien sûr, c'est insupportable. En peu de temps, même pas un mois, nous en étions à 75, maintenant on est à 85. C'est exponentiel l'augmentation. Alors j'espère que ça va se réduire dans les derniers mois de l'année, mais c'est pas du tout sûr. Là, ce sont des dysfonctionnements des services publics, police, justice, y compris hôpital, qui font que, autrement, si c'était appliqué correctement, on aurait pu en éviter de très nombreux. Qu'on ne dise pas aux femmes, oh, ben, écoutez, oui, des propos violents, c'est rien, il a voulu montrer qu'il était un homme, vous pouvez rentrer chez vous, ayez confiance. Il faut que chaque fois qu'il y ait un dépôt de plainte, même si après ça s'arrête, il faut qu'il y ait une ordonnance de protection qui soit prononcée.
Ordonnance de protection, bracelet électronique, téléphone, grave danger, des mesures jugées insuffisantes par les associations et les collectifs. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, a annoncé la tenue en septembre d'un Grenelle contre les violences conjugales. Les associations espèrent une politique plus volontariste sur le modèle de l'Espagne, où le nombre de féminicides est trois fois moins élevé qu'en France.
Merci à vous, Sarah Ders. Les combats font rage à Aden. La coalition menée par l'Arabie Saoudite a ciblé ce matin les sites pris hier par les séparatistes du Sud, dont le palais présidentiel de la grande ville portuaire du Yémen. Une quarantaine de morts et 260 blessés depuis jeudi, selon l'ONU. Riyad appelle ce matin à une réunion d'urgence afin de mettre un terme aux affrontements. Des heures sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, noble sanctuaire pour les musulmans, appelé le mont du temple par les juifs, lieu saint, sensible, qui plus est au premier jour de l'Aïd. À ces heures, il faut ajouter plusieurs fusillades ces dernières 48 heures à Gaza. Bonjour Alice Froussard.
Bonjour.
Alice, vous êtes en direct de Jérusalem. Quid de ces tensions sur l'esplanade des mosquées ?
Eh bien ici, les tensions ont commencé assez tôt. On a pu entendre des dizaines de tirs de bombes assourdissantes tôt ce matin. Le calme est ensuite revenu dans la matinée, mais les bruits d'explosion ont repris un peu après l'appel à la prière. Selon un bilan encore provisoire, 14 blessés lors des heurts avec la police, dont un sévèrement. Du côté des forces de l'ordre, on signale 4 policiers blessés également. Des altercations qui ne sont pas rares ici, hein, vous l'avez dit, l'esplanade des mosquées est le troisième, le lieu saint pardon, de l'islam. Il est aussi le site le plus sacré pour les juifs qui l'appellent le mont du temple. Hasard du calendrier, la fête de l'Aïd coïncide avec Tisha B'Av. C'est l'un des jours les plus tristes, celui de la destruction du temple pour les juifs. Il y a donc énormément de fidèles ici. Toutes les mosquées de la région avaient d'ailleurs reçu comme directive de fermer leurs portes pour renforcer la fréquentation du site sacré. Week-end de tension également à Gaza. Ce matin, un Palestinien a ouvert le feu sur des soldats israéliens. L'homme de 26 ans a été tué par l'armée. C'est le troisième échange de tirs meurtriers à la frontière ces derniers jours. Peu après, des chars israéliens ont aussi frappé des positions du Hamas. Le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza est également impliqué dans une tentative d'infiltration en Israël qui a coûté la vie à 4 de ses militants ce samedi.
Alice Froussard, en direct de Jérusalem, premier jour de l'Aïd el-Adha, l'une des plus importantes célébrations religieuses de l'islam qui a conduit les belligérants à accepter le principe d'une trêve en Libye avec encore des divergences sur l'entrée en vigueur de la trêve en question. Deuil national de 48 heures en Tanzanie, décrété au lendemain de l'explosion d'un camion-citerne accidenté à 200 km à l'ouest de la capitale Dar es Salaam. Au moins 69 morts selon un dernier bilan. La plupart des victimes sont des conducteurs de taxi-moto venus récupérer le carburant du véhicule qui s'est enflammé. La fermeté des autorités hongkongaises ne semble pas doucher l'espoir qui porte le mouvement de contestation qui prit racine il y a 2 mois, quand fut rendu public un projet de loi qui aurait autorisé des extraditions vers la Chine continentale. Nouvelle manifestation aujourd'hui, une fois de plus interdite, et des protestataires qui ont appris à se protéger des charges de la police. Angélique Forget est à Hong Kong.
Le visage cagoulé et entièrement vêtu de noir, un groupe d'une dizaine de manifestants arrache les barrières d'un trottoir. Ils forment des barricades pour bloquer une rue, puis déguerpissent avant l'arrivée de la police. C'est leur nouvelle stratégie, pas d'affrontement, mais l'évitement.
Nous ne voulons ni être arrêtés, ni être blessés. Donc notre stratégie, c'est d'être rapide. Quand on bloque une rue, on doit en repartir vite et filer vers une autre destination.
Une tactique que résume un slogan dans tous les esprits ici, « Be water », soit de l'eau. Elle fait référence à une citation de la star du kung-fu Bruce Lee.
L'eau peut exister sur 3 états, solide, liquide et gazeux. Nous devons être comme elle. Quand la police s'approche, nous devons devenir des gaz et nous éparpiller. Quand ils ne sont pas là, nous pouvons rester sous un état liquide. Et quand nous devons être forts, nous pouvons nous transformer en glace.
Ce mouvement de contestation se veut mouvant et c'est ce qui le différencie de la révolte des parapluies en 2014. À l'époque, les manifestants avaient occupé le même quartier à Hong Kong, celui des affaires, pendant 79 jours.
Aux États-Unis, le FBI et le ministère de la Justice ont lancé 2 enquêtes après la mort de Jeffrey Epstein, financier et figure de la Jet Set, accusé d'agression sexuelle sur mineurs et retrouvé mort dans sa cellule, un suicide apparent, selon les termes du ministre de la Justice. Après le choc Weinstein, cette affaire confronte à nouveau les États-Unis face à ces vieux démons, selon Thomas Snegaroff, historien, spécialiste des États-Unis et journaliste à France Info.
C'est un scandale énorme. Parce qu'Epstein est une figure médiatique du monde des affaires connue depuis des décennies aux États-Unis. Ça touche évidemment des choses ultra sensibles, puisqu'on évoque ici un réseau pédophile. Une affaire de grande importance aux États-Unis, renforcée bien sûr, alors là depuis hier, par le suicide, ou en tout cas ce qui est présenté comme un suicide.
Cette affaire réveille aussi les vieux démons de l'Amérique.
Oui, bien sûr, ça réveille des démons, disons, d'une élite corrompue, élite financière, élite médiatique. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, Donald Trump a été élu avec la promesse faite au peuple de nettoyer toute cette élite corrompue, dont il fait lui-même partie d'ailleurs, mais ça c'est secondaire pour pas mal de ses électeurs. Et d'ailleurs, c'est à mon avis la raison pour laquelle il se place lui-même, alors que l'enquête pourrait révéler des liens entre Epstein et lui, immédiatement du côté du peuple qui s'interroge sur la responsabilité des élites entre elles, voire même pour assassiner Epstein, puisqu'il a retweeté un compte qui évoquait l'hypothèse que les Clinton soient derrière la mort d'Epstein parce qu'ils avaient plus intérêt à ce qu'il soit mort que vivant. Et il le retweete, attestant donc de sa croyance dans cette hypothèse, en tout cas la nourrissant. Il souffle là-dessus, ça lui permet d'être du côté de ses électeurs qui croient largement à ce genre de théorie. C'est sa manière de répondre et d'utiliser ce scandale qui quand même commence à l'éclabousser, mais ce qui lui permet, et c'est assez habile de sa part, d'apparaître non pas comme l'homme du système, mais d'être l'homme du peuple.
Thomas Snegaroff avec Sophie Delpont. Migration et corruption au cœur du second tour de l'élection présidentielle au Guatemala. 8 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour. C'est la candidate de centre-gauche, Sandra Torres, qui fait la course en tête. Elle a obtenu plus de 25% des votes lors du premier tour contre 13% pour son adversaire de centre-droit, Alejandro Yamatei. Les principaux enjeux du mandat sont la lutte contre la pauvreté, contre l'insécurité et la migration du peuple guatémaltèque vers le Mexique et les États-Unis. Nathanaël Charbonnier.
Pour comprendre l'enjeu des 4 ans à venir pour le futur président, il suffit de se rendre dans la commune de Tecunuman, à la frontière avec le Mexique. C'est là que traversent des milliers de Guatémaltèques. Un passage de la frontière qui se fait légalement en traversant un pont qui sert de poste frontière ou illégalement en naviguant avec des radeaux de fortune sur la rivière qui coule en contrebas. Et la liste des raisons qui les poussent à fuir sont connues. Il y a bien sûr les raisons économiques et la pauvreté. 59% des 17 millions d'habitants du pays vivent en dessous du seuil de pauvreté, et ce malgré une croissance de plus de 3%. mais il y a aussi des problèmes de corruption. Le président sortant lui-même a été visé par une enquête de l'ONU pour des faits de ce type. Et enfin, des problèmes de violence. La campagne a été marquée par le départ à l'étranger du procureur du tribunal électoral et de sa famille 4 jours avant le premier tour. Il avait reçu des menaces. Il faut dire que le pays est gangréné par les narcotrafiquants. En cas de victoire, la candidate de centre-gauche envisage ainsi, pour les combattre, de déployer l'armée dans les rues.
Les dominantes météos de l'après-midi, des orages violents sur la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et la Drôme, des pluies sur le sud-ouest et le centre-est. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili et la technique, Pierrick Monsigny.